vous rattache intimement à cette région du Mâconnais?
J'y suis né d'abord, hein, en 1903, dans une acrotelle, c'est-à-dire au sommet de la ville. Hein. Alors, quand j'ai eu un petit peu d'argent et que je pouvais m'acheter une maison à moi, en 1960, il y a donc ça 20 ans, nous avons cherché un endroit où je pourrais m'établir pour l'été. J'aurais voulu une île, parce qu'une île à Martin Serra, puis il n'y avait pas moyen, hein, c'est une trop grosse maison. On a fini par trouver cette petite maison-là, qui était très à l'écart, hein, puisqu'il faut avoir une voiture pour y aller. Le chemin de fer est à 10 km, le bus passe à 4 km, donc j'ai acheté ça vraiment pour un morceau de pain, et c'est ce que je voulais, parce que la solitude complète. Hein. Le petit village, qui s'appelle la Cour des Bois, n'a que 8 foyers, même pas 7 foyers. Enfin, on est dans un endroit tout petit. Alors, je suis dans mon pays, puisque comme je vous dis, je suis né à Mâcon, et je suis très attaché à ce pays par les souvenirs d'enfance que vous devinez facilement. Hein. Mon père était agent voyage, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle maintenant, ça a une affaire de titre, ingénieur TP, ingénieur des travaux publics de l'État. Mais jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, ou presque, c'est dans l'année précédente qu'il est devenu ingénieur, il est donc agent voyage, ce qui signifie qu'il s'occupait entièrement des routes des caniveaux. Alors, il était toujours à l'extérieur. Et quand j'ai eu 5-6 ans, qu'on m'avait acheté un premier petit vélo, il m'emmenait souvent avec lui. Alors comme ça, je voyais des choses du pays, pas bien loin, 15-20 km maximum. Hein. Je me rappelle encore qu'il me faisait monter quelquefois sur le rouleau compresseur. Vous savez, c'est leur maître qui faisait avancer. Les quelques hommes qu'il avait sous ses ordres, qu'est-ce qu'ils étaient 5 ou 6 cantonniers, hein, mais les bien donnés des billes qu'ils avaient trouvés. Enfin, avec mon père, j'ai beaucoup circulé, beaucoup remué dans ce patin. Il avait une passion qui m'a donné les fossiles. Et il a trouvé, à cause de son métier même, des endroits où on trouvait des fossiles. Alors j'allais que seul dimanche avec lui en chercher, dimanche parce que les jours ne travaillaient pas, ou encore jeudi après-midi. J'avais les grémites, celles qui sont en forme de, pas de fuseau, avec une pointe au bout, ou les ammonites, qui sont les circulaires, vous savez. Alors j'en ai constitué comme ça toute une petite collection, et vraiment c'était une grande joie pour moi, le dimanche ou le jeudi. Je dois dire que la plus grande joie c'était au fond d'aller au cinéma avec mon père. Mais enfin, quand on allait au cinéma, on allait se balader. Alors toute cette région-là autour de Mâcon, mais infiniment connue, ça me tient à votre si vous voulez, je ne le connaissais pas, je crois que vous faites de la découverte, c'est un endroit, Lamartine, enfin je veux dire, Lamartine est un homme modéré, hein, c'est un homme qui raconte des petites choses douces, hein, sa poésie n'est jamais violente. Elle correspond exactement à ce qu'il dit, j'aime Lamartine, hein, et j'aime effectivement ce qu'il a dit. Il a même raconté quelque chose que j'avais pris pour une blague, dans ce congrès de l'Orient, il raconte, quand il a fait une première escale à Athènes, il a dit les collines de l'Attique avait la même couleur que les collines de Montpellier. J'étais pas allé à Athènes avant 1949. Je suis allé à Athènes et effectivement j'ai trouvé que la colline, l'Attique, enfin au-dessus de l'Athènes, je ne savais pas la petite mobilité comment ça s'appelle, juste au-dessus de l'Athènes, c'est la même couleur de pierre qu'ici. Alors ça m'a encore attaché de plus à ce type, c'est vous dire que ben, c'est un pays qui a pour moi le charme de l'enfance et aussi le charme en soi d'être un beau pays, modéré, intelligent, souple, simple. J'aime pas la littérature, mais c'est un pays auquel je suis attaché parce que dans son horizon même, dans sa texture et dans ses couleurs, il me parle.
Les lectures de vos loisirs, quand vous lisez pour vous.
Et évidemment, vous avez raison de dire quand je lis pour moi, parce que j'ai lu beaucoup de choses pour mon travail. Hein. Naturellement, la plus grande partie de mon temps se passe, puisque je suis libre comme tout maintenant, je n'ai aucune obligation, hein, se passe à des lectures de travail. Mais à la fin de la journée, j'en ai marre et j'essaie de faire autre chose. Alors cette autre chose, c'est systématiquement, et je vais me déshonorer, le roman policier. Hein, j'adore ça. Ça dépend lesquels. Avec Attaque Intime, on lit beaucoup, autrefois je marchais, mais je trouvais pas artificiel, enfin je n'y crois plus. Ce sont la série noire. Je suis bien la mauvaise réputation du mélange de sexe, de sperme et de sang. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Très inégal, hein, attention, très inégal. Je ne peux plus supporter les Carter Brown, par exemple. Mais du point de vue américain, c'est Farhan, par exemple, ou encore Adjeche, c'est très bon. Mais je dois vous dire, c'est les Français qui m'ont assez dépassé. Un type dont je n'ai pas le nom, qui signe, je crois, Francis Crook, qui fait le jeu excellent. Et puis, il y a un monsieur pour lequel j'ai pas une vraie passion, qui s'appelle, je crois, Jean. Alors, c'est un nom balsacien. Ah, c'est le nom ne me revient pas. Ah, votre âme, vous avez parfaitement raison, c'est ça. Votre âme, il a fait deux choses. Il y en a un qui s'appelle Billy the Kick, qui est K.I.C.K. Et puis, il s'était tellement bien qu'il a quitté la série noire, qui est tout de même enfin, un peu populaire, et qui a publié dans un gros bouquin qui s'appelait Blue Dinery, qui est de premier rang. Alors voilà, ben, c'est ce que j'ai souvent, presque toujours, la plupart du temps, le soir, dans mon lit, avant de me replier, j'ai lu une demi-heure vraiment politique. Mais j'essaye aussi quelquefois de relire d'anciens bouquins, des romans par exemple. Alors là, je me suis aperçu que les livres qu'on a aimés autrefois, que j'ai aimés autrefois, ne sont plus ceux que j'aime maintenant. Exemple. Julien Green. J'avais comme ça 20-25 ans. Je m'en vais de mon cinéma, je m'en vais des heures sur la terre, qui m'avait impressionné. J'ai essayé, il y a 2-3 ans, c'est plus possible. Je trouve ça absolument de la rhétorique, c'est faux, c'est triché, c'est de la mauvaise littérature. Et même Malraux, je me rappelle encore comme Malraux était important pour moi d'avoir réalisé Conquérant. Ben, il y a 2 ans, j'ai essayé Malraux et j'ai trouvé ça également truqué, ça pas vrai. Alors évidemment, si vous me demandez, je l'ai dit l'autre jour, je vous envoie le chapitre, je crois, c'est Victor Hugo que je préférais assez vrai. Je ne me lasse jamais de relire les Victor Hugo. J'ai lu 3 fois dans ma vie Les Misérables. C'est toujours immense pour moi, c'est un univers, il y a des tâches dépassantes. Et je dois vous dire aussi que Flaubert, dont on parle aujourd'hui, parce que son sens sa naissance bientôt, il y a eu des choses, évidemment Salammbô est absolument impossible. Et la Confession de Saint-Antoine, c'est beau. Et Madame Bovary, c'est pas mal, mais ce que je trouve de mieux, c'est certainement l'éducation sentimentale. Il y avait un personnage extraordinaire, c'est celui de Madame Chessinga, qu'il a appelé Madame Arnoux, Madame Arnoux, qui a Frédéric Moreau. Voilà, alors voyez-vous, quand je ne fais pas du travail, je vais lire des romans policiers ou d'anciens romans pour voir ce qu'ils nous donnent encore aujourd'hui.
Rappelez-nous qui était Marc Fournier et quel rôle il a joué dans votre vie.
Un grand rôle. Marc Fournier est très oublié aujourd'hui, hein. Je me rends compte quand je prononce son nom, les gens ne savent pas. C'est avant la Première Guerre, entre 1900 et 1914, qu'on a vraiment beaucoup parlé de lui. Il avait créé en 1900 un garçon qui sortait de l'école polytechnique, il avait beaucoup d'argent, il avait décidé d'utiliser aussi bien à sa propagande. Il avait créé un mouvement qu'il avait appelé le Sinon. Et c'était un mouvement à la fois religieux et politique. Politique, d'une manière tout à fait inattendue, à ce moment-là, les catholiques étaient représentés, étaient considérés comme des gens de droite, et lui s'affirmait républicain, et même républicain de gauche, eux-mêmes, j'ai entendu, républicain d'extrême gauche. Ce qui provoquait un grand tumulte, et beaucoup d'incrédulité. La droite l'appelait un traître, et la gauche disait, c'est un hypocrite, c'est pas vrai, on peut pas être à la fois catholique et républicain. Alors il l'était pour de bon, et vers les années 1907-1908, ça a été vraiment une chose considérable en France. Je viens de lire récemment dans une œuvre inédite qu'on a révélée en 1953 de Péguy, un déchaînement de Péguy contre lui à cause du bruit que se faisait de ce dernier, qu'elle avait menacé lui, c'est né en 1973, Péguy aussi. Péguy était inconnu et il considérait que ce petit jeune homme insupportable faisait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il faisait un très grand bruit, au point que le pape, qui s'appelait Pie X, le 25 août 1910, est intervenu pour condamner Péguy. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai relu cette condamnation du 25 août 1910, elle est, permettez-moi de le dire, scandaleuse, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'observation religieuse, mais d'observation politique. Le syllabus de 1964 avait condamné le libéralisme et l'idée démocratique. Bon, l'Église, à ce moment-là, était comme ça. Et c'est dans la mesure où il s'agissait d'un catholique de gauche, d'un catholique républicain, et que le pape incarnait en disant incalifiable. Alors il a cédé, mais il a obtenu de Rome l'autorisation de faire un livre, une publication purement politique. Ça fait alors la démocratie, qui a paru jusqu'à la guerre, puis la guerre était terminée, il a fait son devoir, il a eu la première guerre, etc. C'est capitaine d'artillerie. Puis après la guerre, il a repris sous une autre forme qui s'appelait la Jeune République. Il faut vous dire que ce mot Jeune République correspondait dans l'opinion publique à quelque chose qui était sensible. Il y avait un journal qui s'appelait La Petite République, qui était dirigé par Jaurès et par les socialistes, et à côté de la Petite République, il y avait la Jeune République. Bon. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé dans ma vie. Hein. Il est né en 73, moi en 1903, il y a différents. Et en 1922, j'avais été reçu à l'écrit de l'École normale supérieure, mais il fallait aller passer l'oral à Paris. Alors dans cette même année, 1922, un garçon qui était avec moi à Cannes, à Cannes, c'est la préparation de l'École normale supérieure à Lyon, m'avait prononcé devant moi le nom de Sanguier. Je ne savais pas qui c'était, mais ça m'intéressait. Pour une raison que je vais vous expliquer, j'avais dans ma famille un divorce, qui était que mon père était extrêmement anti-religieux, pas seulement anti-catholique, mais anti-religieux, et que maman était très catholique. Et ça me peinait, ça de voir que je ne pouvais pas unir en moi. Et tout à coup, je me suis dit, mais ce Sanguier représente quelque chose qui me permettrait de trouver une espèce d'unité intérieure. Hein. À la fois républicain comme mon père et catholique comme ma mère. Alors carrément, je suis allé dans sa maison, au sud de Varasta, et j'ai demandé à voir ce monsieur Sanguier, qui m'a reçu tout de suite. C'était un homme qui avait 49 ans à ce moment-là, qui avait une allure de Gaulois, qui avait une grosse moustache, pas de ventre, mais du poitrail. Il avait de très beaux yeux bruns. Et il était à chaque 10 semaines, il m'a tutoyé tout de suite, il m'a demandé de le tutoyer, ce qui était très gênant. Et il était très rigolo, c'était pas un homme qui était perdu dans la mysticité, il employait même volontiers le mot mysticopoire, enfin il n'aimait pas ceux qui mettent des pantoufles spirituelles, disait-il. Alors il m'a dit, il faut que tu sois reçu l'année prochaine, hein, parce qu'on travaillera ensemble. Alors j'en ai mis un coup, alors j'avais bien désiré déjà être reçu, mais encore plus à l'édit que je travaillais avec lui. Si bien quand je suis entré à l'école normale en 23, j'entrais avec de l'avance, j'étais déjà licencié, déjà diplômé. Alors j'ai fait cette bêtise de ne pas travailler du tout, absolument pas du tout, pendant 2 ans à l'école normale, et de vivre chez lui. Alors j'ai été pendant 2 ans sous secrétaire particulier. Et j'ai vu vivre de près cette femme. C'était pathétique, hein. Avec la simplicité même dont je vous parle, avec ce goût de l'humour qu'il avait, les surnoms qu'il nous donnait, il y en avait un qui appelait l'éléphant ou l'élève, c'est celui qui mettait ses pantoufles sur le cœur. Il y avait un autre qui l'appelait Tiens Fou, parce qu'en effet il était agité. Il y avait un frère qui était très bien, qui se présentait très bien, qui l'appelait le cheval. En effet, il n'avait pas vu le cheval. Et moi j'étais le latin parce que j'avais 2 ans qui sortait de la bouche à ce moment-là. Alors bon, j'ai le latin, j'ai pas fait avec lui, et pendant 2 ans j'ai fait que ça. Ce qui m'a coûté mon échec l'année suivante à l'agrégation, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Alors sans lui, voyez-vous, c'est quelqu'un qui m'a façonné, hein. Il y a mes parents d'abord, puis façonné après. Alors je peux dire qu'une grande part de ce que je suis, je le lui dois. Parce que c'est lui qui m'a appris à vivre le plus possible, déjà, dans la chrétienne, dans le christianisme, le plus possible, hein. Les personnes venues du clericalisme n'étaient pas du tout clérical, hein. Mais ils étaient chrétiens, enfin, dans son comportement. Et je l'ai vu vivre du matin au soir, puisque j'habitais chez lui, et j'ai pris pour lui une affection, je ne dirais pas démesurée, mais considérable. Je veux dire, même une petite confidence, c'est lui qui m'a, et qui a fait le mariage, en fait, il m'avait dit, tu devrais aller faire une conférence à Bordeaux. Bon, c'est une conférence à Bordeaux, c'est une conférence publique. Et je suis descendu chez un nommé Jacques Rodel, qui avait d'autres fois le secrétaire général du Sidon. Puis il y avait là une fille, qui avait à ce moment-là 15 ans et demi, je ne l'ai pas vu travailler au milieu, là. J'ai dit à sa mère, oh, ben, dis-en, si je me marie, je m'aurais bien épousé. Oh, très facile, il dit, je vais en parler à Jacques. Alors, Jacques Rodel, quoi, hein. Puis je suis retourné l'année suivante, puis j'ai présenté ma candidature, parce qu'à ce moment-là, j'avais mon métier, quoi, j'étais agrégé. Alors on m'a accepté, quoique ma jeune femme est à son âge 17 ans et demi, ce qui était un peu jeune, vous savez, qui a permis à Morgan, qui était mon témoin, le jour du mariage, de me dire que ça ne voit pas, on passe encore d'assises pour beaucoup moins que ça, il m'a dit, parce que cette femme de 17 ans et demi. Ouais. Bon, Vincent est un homme qui avait depuis jusqu'à 73 ans, il avait tout dépensé de ce qu'il avait, si bien que dans ses dernières années, il était, oh, pas dans la misère, mais enfin dans la gêne. Hein. Il habitait toujours cette maison, boulevard Raspail, qui était de son père, c'était dans un désagrément épouvantable. On mangeait très peu chez eux, c'était un homme qui avait énormément maigri. Tandis qu'il s'est ruiné pour ses idées. Alors voyez, j'ai quelques raisons de l'aimer beaucoup.
Pour beaucoup de monde, pour un iconoclaste, comment réagissez-vous?
Je réagis mal, parce que ça m'agace. Et tout ce que vous avez dit est vrai. La plupart des gens disent que c'est une petite qui a détruit. Hein. Pourquoi? C'est vrai que j'ai fait un texte contre Napoléon, et je ne reçois pas ici-là. C'est vrai que j'ai publié un texte pénible de Vigny et un autre de Benjamin Constant. J'ai donc fait sur les, je ne sais pas, moi, 40 volumes ou 30 que j'ai publié, 3 ou 4 livres, presque plus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben, Napoléon, parce qu'il me semblait que c'était indispensable de rétablir la vérité sur un homme qui me paraît être démoniaque, parce qu'il a fait beaucoup de mal à la France et au monde. Bien. Mais les deux autres, c'est presque par hasard que j'ai écrit ces livres, parce que j'avais trouvé, vraiment j'avais trouvé, à la bibliothèque, non, aux archives nationales, un texte de Benjamin Constant, je m'informais sur la Révolution, et justement Madame de Staël, qui a une compagnie qui a l'Isard, qui s'est les lois, etc. Et demandant les documents concernant l'Isard, j'ai trouvé, et personne n'avait encore vu ça, un petit bout de papier d'environ 15 cm sur 10, avec dans le coin de la main de Benjamin Constant, une écriture très nette, signée Benjamin Constant, à remettre en échafaud un ministre de la police et en main propre. Et c'était une dénonciation. À ce moment-là, Benjamin Constant, qui est évidemment français, voulait tout de même entrer aux 500. Vous vous rappelez, hein, on dirait qu'il y avait les 500, les anciens. Bon, il entre aux 500. Il n'avait pas le droit parce qu'il n'était pas français. Et il y avait à l'Isarche, là où il habitait, avec les 30 000 balles que lui avait donné sa maîtresse. Il y avait un curé, qui s'appelait Ouday, et qui n'était pas favorable à la candidature de Benjamin Constant. Alors Constant dénonce ce curé à l'autorité, Sautin, juste après Fructidor, Fructidor c'était un coup d'État extrêmement gauche, enfin je veux anticléricale, et avec beaucoup d'hypocrisie, il dit je ne demande pas qu'on l'arrête, je demande simplement qu'on l'éloigne. Alors j'ai voulu avoir le formel, j'ai cherché cette barrière sur Ouday. J'ai vu qu'il avait été arrêté, transféré au ponton de La Rochelle, je crois, et de La Rochelle à Cayenne, où il est mort. Alors, comme j'avais découvert ça, je ne pouvais pas me taire. Enfin, j'ai dit, je suis un historien, donc quand je trouve un document, il faut que je le publie. Et ça me paraissait tellement grave que j'ai mis ça dans mon bouquin qui s'appelle Benjamin Constant et Schlatter. Point. J'ai fait un autre livre sévère sur Vigny, parce que là aussi, absolument par hasard, c'est pas la peine que je vous raconte le détail, j'avais trouvé des papiers de Vigny établissant qu'il allait trouver de manière assez régulière le préfet de la Charente, puisqu'il n'allait pas président de la Charente, et qu'au lendemain du coup d'État, il signalait à ce préfet les gens qu'il fallait arrêter, parce qu'ils allaient dans les esprits. Et il y avait des choses particulièrement révoltantes, Génie est un incroyant, il est parfaitement droit. J'avais même écrit des choses très belles là-dessus, vous rappelez peut-être dans le même des Oliviers, il y a la forme du silence. Le juge s'opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence, un silence éternel de la divinité, ça se tient. Hein. Et bien quand on écrit ça, on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, puisqu'il écrit d'un prophète de la Charente, un tel qu'il faut arrêter, parce que c'est un juge de paix qui conseille les jeunes filles de ne pas se marier à l'église. C'est un exemple vrai. Hein. Alors c'est un informateur. C'est pas l'indicateur de police qui est payé, c'est un informateur. Ben, il y en a d'autres, des grands écrivains qui font de la politique, il y a la Marseille, il y a Victor Hugo, il y a Chateaubriand, je ne vois pas aucun de ces trois déçus qui sont capables de faire de la dénonciation individuelle. Alors j'ai fait donc un bouquin qui s'appelle Monsieur Gini, homme d'ordre et poète, il y a 250 pages qui sont ça. Il y a 30 ou 40 pages sur lui, homme d'ordre, l'essentiel que je viens de vous dire, et puis le poète que je respecte beaucoup, sur lequel j'apportais des lignées. Ben, à cause de ces trois bouquins, c'est établi cette légende que j'étais le destructeur. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Si vous voulez prendre l'ensemble de mes bouquins, j'ai fait surtout des défenses d'illustration. Défenses d'illustration de qui? De Flaubert, bon, peu importe. De Jean-Jacques Rousseau, de Lamartine, de Victor Hugo, de Zola, hein, pour indiquer que c'était des gens qui avaient mauvaise réputation. Par exemple, Lamartine est féminin, comme disait Proudhon, et puis ils sont hérédités, alors que c'est un type très puissant, qui savait ce qu'il voulait. En politique, pour être égaré dans la politique, pas du tout, il a été renversé parce qu'il disait des choses qui déplaisaient aux notables. Victor Hugo, on apprenait que c'était un admirable artisan du verbe, mais qui n'avait pas de pensée ici, c'est un type qui avait une pensée très sérieuse. Zola paraissait dans un pornographe, alors que c'est pas vrai. Rousseau, un fou, oui, c'est vrai, à la fin, ils étaient traqués parce qu'on l'avait traqué. Revenez-vous, c'est vrai que j'ai changé un certain nombre d'images, c'est vrai. Mais croyez-moi, je vous dis la vérité, hein, j'ai beaucoup plus de joie à remettre à sa vraie place un type qui a été mal vu et dont je montre la vraie grandeur, que je n'ai de joie mauvaise peut-être à démolir une image conventionnelle de quelqu'un que je trouve beaucoup moins beau que sa légende. Un point c'est tout. Ma passion, ma seule passion en histoire, c'est la vérité.
La vieillesse, disons l'âge mûr, c'est une épreuve difficile pour vous?
Eh bien oui, c'est une épreuve, en ce sens que les forces diminuent, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Porter quelque chose maintenant, c'est un drame, monter un escalier, ça me fait sauter le cœur. Donc il y a une diminution considérable de mes puissances. Quoi. Alors ça, c'est très pénible. Et il y a un danger dans la vieillesse, que j'ai bien constaté autour de moi. Tenez, mon ami Pierre Simon, j'en ai parlé, je crois. Enfin, c'est un ami que j'aimais bien, qui était entré à l'école normale avec moi en 1923, on est resté toujours copains. Parce qu'il avait fait une évolution qui m'intéressait assez au début, quand ils étaient ensemble normalement, il était l'extrême droite, il était non pas comme du roi, mais ça avait gêné le patriote, et moi j'étais de l'autre côté. On s'estimait quand même. Hein. Et puis voilà, toujours au milieu de sa vie, il fait 40-45 ans, il a fait un mouvement d'ouverture, il est passé centre-gauche, mettons. Hein. Il a écrit un bouquin qu'on lui a beaucoup reproché, qui s'appelait « Les catholiques, la politique et l'argent », qui me plaisait bien à moi. Figurez-vous que dans les dernières années de sa vie, il n'est pas mort vieux, il avait 72-73 ans, il a fait un dernier bouquin qui s'appelait « La sagesse du soir ». Et même on lit ce bouquin avec une dédicace affectueuse comme toujours, en me disant « Je sais que je vais te faire la peine parce que ma boucle est bouclée et je redeviens ce que tu m'as connu quand nous avions 20 ans. » C'est ça que je ne veux absolument pas. Non, je n'ai pas à revenir à quelque chose puisque je suis assez assez immobile, mais je ne veux pas devenir un sage du soir, c'est-à-dire Duhamel. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire de Duhamel. Hein. Vous vous rappelez, Duhamel, après la première guerre, il était parti vraiment énergiquement avec la vie de martyr, etc. Puis d'année en année, il était devenu gentil, hein, bénin, ami tout le monde. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en mon sens, ce que l'on appelle cette sagesse du soir, c'est en réalité la montée en soi de l'indifférence. Je me rappelle d'avoir lu dans Graham Greene, il n'y a pas tellement longtemps, dans Les Comédiens, une chose qui m'avait beaucoup touché. Il fait parler, je crois que c'est un dominicain, c'est peu importe, un prêtre, il faut parler de la violence. Il dit la violence peut être une imperfection de la charité, de l'amour, tandis que l'indifférence, c'est la perfection de l'égoïsme. Et bien, je sais qu'une des menaces de la vieillesse, c'est le repliement sur soi, donc l'indifférence. Donc, on est plus sensible à ce qui se passe autour de soi. Et ça, je ne veux pas. Je me rappelle Hugo qui disait, moi, je mourrais indigné. Je ne demande pas de mourir indigné, mais je vous demande. Je demande à Dieu, parce qu'il va me l'accorder, de rester capable de réaction devant ce que je trouve, ce que j'ai longtemps trouvé abominable, inacceptable. Vous voyez. Celui qui assiste muet au mal, disait Victor Hugo, assiste le mal. Et bien, j'espère que je serai toujours capable, jusqu'à ce que je rêve, d'avoir des réactions devant le scandale.
Quand on évoque devant vous la possibilité d'une autre vie, comment réagissez-vous?
Je ne sais pas si vous en parlez par autre vie. Hein. Si vous voulez parler d'une vie post-mortem, on en parlera un autre moment. Mais si vous voulez dire, est-ce que ça vous intéresserait de revivre, je ne sais pas, une réincarnation, alors je vous répondrai carrément non. Je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout été malheureux, hein, je ne peux pas dire que j'ai eu une vie misérable. Enfin, j'ai fait le tour des questions, je trouve. Hein. au fond, j'ai été un homme heureux. Hein. Il y a eu qu'un drame dans notre vie, c'est la mort de notre premier petit enfant qui s'est tué en tombant de 10 mètres de haut. C'est la seule chose qui nous a vraiment brutalisé. Autrement, tout s'est déroulé normalement. Alors, je sais ce que c'est que le bonheur de dans la jeunesse, de l'enfance, oui. De l'amour aussi, je sais ce que c'est qu'une vie de famille. Mais j'ai envie de voir autre chose. Enfin, je suppose que ça suffit. Une fois, c'est fini. J'ai envie de recommencer.
Alors, les perspectives de la mort.
Il y a deux questions aussi là-dedans. Il y a l'avant-mort et l'après-mort. Hein. Alors, quand je pense à ma mort, je n'ai pas peur. J'ai été longtemps effrayé, quand j'étais plus jeune, avec l'idée qu'ils disparaissaient trop tôt, mes enfants, ma femme seraient dans une situation difficile. Maintenant, ils sont tous mariés, mes gosses, ils sont sur rail, et ma femme aura une pension suffisante pour vivre, surtout là, elle n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Donc, c'est plus d'inquiétude. La mort en elle-même ne me fera peur, je vais vous en parler. Ce qui me ferait peur, c'est la souffrance ou l'amoindrissement. Souffrance, je crois qu'il y a des moyens aujourd'hui de ne plus souffrir avec l'analgésique. Enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il y a des morts particulièrement atroces, c'est toujours moyen d'éviter la souffrance. Ce que je n'aimerais pas du tout, ce qui me terrifierait, c'est d'avoir été une victime de je ne sais quelle mutégie qui me ferait qu'on me pousserait dans une situation. C'est aussi pénible pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Alors ça, je désirerais beaucoup en être distancé. Et maintenant, l'autre problème, c'est-à-dire, s'y a-t-il quelque chose de côté? C'est des questions, bien sûr, et je ne peux pas répondre avec fermeté. Je veux dire simplement que je l'espère, oui, je dis bien je l'espère, et je le crois. Il me semble qu'il y a dans l'individu humain, ce que j'appelle, c'est une figure appelée, une présence de l'infini. Je crois pouvoir vous déplacer là si vous voulez, enfin ce qui est essentiel chez nous, ce qui constitue un homme, c'est une certaine réclamation. Et le fait même qu'il y ait cette réclamation à une aspiration prouve qu'il y a quelque chose qui y répond. Pourquoi prouve? Parce qu'on ne saurait pas désirer quelque chose si on n'avait pas déjà un pressentiment. Il y a, à mon avis, une connaissance par contact. De ce que j'appelle, entre guillemets, Dieu, d'ailleurs, si pas ça, à dire comme ça, c'est là qu'on en appelle Dieu, c'est du Saint Thomas. Hein. Et Saint Thomas disait, c'est là que j'appelle Dieu, que l'on appelle Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige. C'est-à-dire la bonté, la bonne volonté, la gentillesse, la solidarité, l'amour, tout ce que vous voudrez. Alors je lui dis, si comme je le crois, l'essentiel de nous-mêmes ne disparaît pas, nous allons faire de l'autre côté une certaine trouvaille probablement assez surprenante. Toutes les idées que nous pouvons nous donner ici-bas, ce qu'on appelle... La réalité, c'est une pure réalité complète. Il ne faut absolument pas essayer d'imaginer, ou ne peut pas. D'autre part, je crois que les catégories d'espace et du temps disparaissent de l'autre côté, ce qu'on appelle l'éternité qui n'est pas une durée qui se prolonge, mais c'est un présent permanent. Alors, ni temps, ni espace. Quoi? Quelque chose que je ne sais pas. Que je ne voudrais pas définir dans le terme éternité qui donne l'impression d'une durée indéfinie. Je définirais plutôt en termes d'intensité. Ce que nous avons trouvé de meilleur ici-bas, nous l'éprouverons d'une manière permanente et au degré maximum. Hein. Et je me dis, c'est vraiment une petite conclusion, ça. Je me dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver, hein. Mais de toute façon, s'il n'y a rien, je ne le saurais même pas, puisque mon cerveau sera différent de ma pensée. Donc, je ne serai pas déçu. S'il y a quelque chose, ça sera forcément passionnant. Quelqu'un que nous avons découvert en arrivant ici en 1960, vous savez que je suis à la messe, et c'était justement pour Pâques. Et comme il est arrivé d'ailleurs un peu en retard, si je n'aime pas, au moment du sermon, j'ai entendu en fait qu'il y avait l'accent de la région, le roulement de l'air, que je n'ai pas moi, je suis pas en Bourguignon, on a fait un master de l'Italie, comme ça. Et il était en train de faire un petit topo qui n'était pas du tout une homélie, puisqu'il racontait la passion. Et il en était arrivé au moment où il disait, eh bien les apôtres, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'il était malheureux? Eh bien ils oubliaient tranquillement. Ça c'est pas mal. Alors j'ai été voir ce type après et on est devenus amis. Hein. Il y a donc 20 ans que je le connais. Je n'aime pas, je crois que je vais son nom. C'est un homme de 49 ans qui reçoit 260 francs, je crois, par mois de déchets. Pour vivre, il est obligé d'être ouvrier. Alors il est ouvrier forestier, il gagne dans les 800 francs parce qu'il travaille à mi-temps. Et le reste du temps, il est curé. Pour lui, être curé, ça veut dire ne pas embêter les gens. Il ne fait jamais de propagande. Hein. Il est à la disposition. C'est un type qui fait des transports d'enfants, qui charge du fumier, qui transporte des choses lourdes, par exemple, les gens savent que auprès de ce bonhomme, on trouve ce qu'on veut tout le temps. Et bien, il m'a énormément impressionné. Il y a 7-8 ans, il a eu un accident très grave, un accident cardiaque, quoi. Il a fait une opération, il lui avait dit, vous avez une chance sur quatre de vous en tirer, il m'a élevé. On lui a remplacé une valve du cœur, enfin, je ne sais pas quoi. Mais le médecin lui avait dit, surtout, il faut modifier votre rythme de vie. Il n'y a rien modifié du tout, il continue à aller le matin dans la forêt, à couper ses troncs, à planter des arbres. C'est un homme qui force non seulement le respect, mais l'admiration et la tendresse. Et il est aimé de partout. Hein. Le maire du village, qui est un homme, qui est un communiste inscrit au parti, hein, qui a mis enfant, C'est un homme qui dit, en parlant de cet abbé, il dit, monsieur le curé, alors que moi je dis l'abbé Farnèse, hein, monsieur le curé. Tellement on le respecte. Et on ne le respecte pas en tant que bonhomme qui raconte des trucs, en tant qu'être humain. Ben, je trouve que c'est très important. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il m'ait donné cette amitié.
Nous ne sommes pas très loin de Thésée. Et vous avez des liens avec ce lieu. Pouvez-vous nous raconter?
Mais figurez-vous, quand on a acheté la maison en 60, je ne savais même pas l'existence de Thésée. C'est devenu un endroit où se rassemblent des tas de gens à partir de 63-65, mais en 60, on en parlait guère. Vous savez comment ça a commencé? Ce prieur de Thésée qui s'appelle Roger Schutz, qui est à la fois l'échevelois, je crois, et un bourguignon par sa mère, avait décidé vers 1938, si je me rappelle bien, de créer une communauté de moines contemplatifs. Il s'est invité, c'est un homme qui a une profonde vie intérieure, et il s'était dit, si les catholiques ont des moines, pourquoi les protestants n'en auraient-ils pas? Alors il avait l'idée de fonder une communauté, je répète, de contemplatifs. Puis il y a eu l'intervention à l'intervalle de la guerre, et puis il a repris, je crois, en 1942, toujours contemplatif. Et il s'est produit quelque chose que je n'explique pas, c'est quand il faisait aucune propagande, c'est un mot qui leur reste tellement étranger, ont vu venir auprès d'eux des quantités de jeunes gens de France, de Chine, d'Allemagne, ensuite de tous les pays du monde, qui venaient les interroger, qui venaient vivre avec eux. Et je vous répète que c'était uniquement des contemplatifs et qu'ils n'avaient jamais parlé d'ouverture sur le monde. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, j'en ai parlé au frère, juste il ne sait pas lui-même, il dit, je ne sais pas, rayonnement, c'est ici passé quelque chose en dehors de nous. Et c'est passé quelque chose de si important qu'on a vu arriver, je crois que c'est en 1974, en 1975, c'est comme le concile des jeunes que j'ai vu. Il y avait 40 000 jeunes gens et jeunes filles, hein, avec d'énormes tentes, il y en avait 7, je crois qu'on avait déjà tente de cirque. Hein. Et ce qui avait été particulièrement extraordinaire, c'est qu'il y avait chez 40 000 jeunes gens et jeunes filles une qualité de silence que j'ai presque jamais retrouvée ailleurs. Hein. Bon, dans la journée, on les entendait chanter, des petites guitares, des flûtes, etc., ils s'agitaient un petit peu, mais. Et dans les trois offices, il y avait trois offices par jour, hein, un vers 7h30, un vers 12h30, un vers 19h, ils étaient donc 40 000 et vous n'entendiez même toutes ces personnes. Ça dure pas longtemps, ça dure une vingtaine de minutes. Mais un recueillement, c'est une vie intérieure, une méditation, qui me renversait, étant donné que ces jeunes gens, je les connais, quoi, ce sont des gens qui ont lissé des pensées, et qui se les pensées plus. Bon. Alors il m'est arrivé très souvent d'en interroger ces jeunes gens. Par exemple, on en trouve, vous savez, des sondes d'auto, c'est-à-dire, alors on est prêt, quand on va à ma coupe, on revient. Et toujours je les interroge. Et je me suis aperçu, confirmé du reste par le frère Roger, qu'il y a au moins un tiers d'incroyants. Il y a beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, je crois même que les catholiques deviennent de plus en plus nombreux. Il y a pas mal d'agnostiques. Et chaque fois, je leur disais, mais qu'est-ce que vous cherchez là, puisque vous n'y croyez à rien? Et les réponses s'accordaient assez bien. Ils revenaient presque tous. C'est un nouveau climat. On est avec des copains. On pose des questions. On écoute, quoi. On réfléchit. Ça nous permet de nous reprendre. Je veux que vous entendez par reprendre. Alors, ils répétaient plus ou moins bien. Ils disaient, là, on est un peu trop dispersé dans la vie quotidienne. On veut essayer de rentrer en nous-mêmes, quoi. Je ne sais pas si j'ajoute moi-même quelques expressions à ce qu'il me disait. Mais le fait est que c'est vrai, il y a toujours ce tiers, c'est à peu près ce que me dit chaque fois le frère Roger, quand je dis chaque fois, c'est que en septembre, fin septembre, chaque année, il m'invite, ma femme et moi, pour faire le point. Et comme il est accaparé, hein, je ne peux pas l'ennuyer, alors je téléphone très rarement. Mais chaque année, depuis 70, 72, en septembre, on va chez lui. Alors on parle, comme ça, cœur à cœur. Et c'est là qu'il me répond, chaque année, je lui pose la même question, il est incroyable, mais oui, très nombreux, dit-il. Frère Roger, c'est quelqu'un d'assez aimé, vous savez. J'ai parlé de gens que j'avais beaucoup aimés, hein, Marc Samier, mon petit curé, il a écrit chez Guy Paroisse. Mais lui, c'est autre chose. En ce sens que je crois que c'est un de ces êtres dont on peut parler, à propos desquels on peut parler d'un mot un peu banalisé aujourd'hui, car il sort quelque chose, cet homme. Hein. Rien que de le regarder, l'écouter un instant, on est sur un autre plan. Je me rappelle, hein, dans le procès de Jeanne d'Arc, c'est un témoignage qui était fait sur elle, un peu petit. Et qui disait, devant Jeanne, on oubliait les femmes. Ça, c'est sérieux, on oubliait les femmes. Eh bien, lui, je ne dis pas qu'on oublie l'individu humain. Mais on est en présence de quelqu'un qui est presque d'un autre ordre. Enfin, en même temps, c'est un homme comme nous, et en même temps, c'est quelqu'un de différent. Il sort de lui, oui, quelque chose qui nous bouleverse, qui nous atteint très profondément. Thank you.
l'écriture, le geste d'écrire, c'est un plaisir ou une épreuve pour vous?
Écrire, je tiens à écrire de ma main, je veux dire que j'ai jamais dactylographié. Et je n'aime pas travailler sur un texte dactylographié, parce qu'il est déjà détaché de moi, et j'aime que ce soit quelque chose qui me touche personnellement. Si bien que je travaille sur ma propre écriture, je fais un brouillon, je recommence ce brouillon, je refais quelquefois une deuxième version, je travaille cette deuxième version. Ce qui vous indique tout de suite que je ne travaille pas facilement. Vous avez parlé de difficulté, c'est vrai. Et c'est une difficulté, je crois pouvoir l'avouer, qui s'accroît chez moi. Je suis vieux et quand j'avais 50 ans, j'écrivais plus facilement. Et maintenant, les tournures de phrases quelquefois ne me viennent pas, un mot m'échappe, je regarde un dictionnaire, je vais très lentement pour écrire. Si vous voyez le manuscrit, c'est épouvantable. C'est-à-dire que moi qui peux m'en tirer, d'abord j'écris de plus en plus de ski, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Et je suis aperçu en regardant l'écriture de Claudel, par exemple. Il avait une très belle écriture en fer forgé, hein, jusqu'à sa 80e année. Puis entre 80 et 85, il faisait tout petit. La Martine, je l'ai lu et autre chose, un petit peu féminin, c'est très beau. Tout petit aussi à la fin. Ben, j'en suis là, j'écris tout petit. Alors je marque difficilement, mais en soutien à me relire directement sur ce que j'ai fait moi-même. Et avec de grandes difficultés. Il y a une question qu'on m'a dit de poser, je me la pose à moi-même. Quel rapport y a-t-il entre le fait que je suis orateur, soi-disant, sur conférencier, que je suis blabla, et que je suis écrivain? Beaucoup de gens me disent, quand on vous lit, on vous entend. Et je me rends compte que c'est vrai, parce que j'ai à lutter, quand j'écris, contre la tentation de la phrase parlée. Quand je réfléchis à quelque chose que je vais dire, je le sens dans ma tête comme je voudrais le dire. Mais entre écrire et parler, ça y est une grande différence. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose. Je tiens, dans la mesure où je le peux, parce que mon style, c'est oral, c'est-à-dire qu'on entend ma voix derrière. Mais attention, il faut trouver une limite. Parce que, par exemple, quand je dis un texte à... comment est-ce qu'on appelle ça, machinphone, là, hein, au magnétophone. Eh bien, quand je l'essaie, par exemple, pour M. Bobertin, il avait un bouquin sur moi, hein, il avait été très loin là, il avait repris le magnétophone, tout ce qu'il avait dicté. C'est pas possible. Parce qu'il y a trop d'approximations, il y a des phrases mal foutues, et quand on écrit un texte que l'on signe, je voudrais qu'elles soient au moins correctes, les phrases, hein, et d'autre part, pas trop approximatives. Quand on dit, comme ça le mot vient plus ou moins, on peut approcher de ce que l'on veut dire, mais quand on écrit, il faut coller à la réalité. C'est pour ça que je suis obligé d'avouer que toutes les fois que j'enregistre quelque chose au magnétophone et que je demande à quelqu'un de vous le reproduire, je demande à ce quelqu'un, vous m'en envoyez le texte et je le refais. J'ai fait ça totalement et récemment encore pour une interview, j'ai tout recommencé.
Dans le fond, toute votre carrière s'est exercée hors de Paris, loin des honneurs, loin des académies. Vous ne le regrettez pas?
Figurez-vous que en juillet 1939, Gilles était venu déjeuner la ville. C'est pas que je savais avec lui, mais Mauriac était à Malaga, faire un kilomètre de Bordeaux, je lui téléphonais de temps en temps, il venait. Et un jour de juillet, je lui dis, voulez-vous venir déjeuner? C'est vendu Philippe Rochin, il me dit oui, mais j'ai Gilles, c'est un niche. Bon, je vous raconte pas le déjeuner à Gilles, c'est pas assez intéressant. Puis là, on sort de chez moi, j'habite à Rose à Bonheur, une petite rue au centre de Bordeaux, et nous marchons vers le centre de Bordeaux, vers l'avenue d'Intendance. Je vois encore Mauriac et son fils qui marchaient devant, et Gilles et moi derrière. Ça, c'était en juillet 39, et je venais de publier mon premier bouquin, qui s'appelait Flaubert devant la vie devant Dieu, que je trouve aujourd'hui assez naïf, ce n'était pas un bon bouquin, mais Mauriac m'avait fait une préface, qui l'aidait beaucoup. Et sur ce trottoir, je me rappelle plus pour ça, Gilles me dit, en me mettant même la main sur le pôle, alors, il m'a ouvert la partie dans laquelle il est. Je dis, comment ça? Ben, vous savez bien comment Mauriac est arrivé, hein. Mauriac a été lancé par un extraordinaire article de Paresse dans l'Écho de Paris en 1910. Ben, l'article de Barry Formelac, c'est la façon qu'il vient de vous faire. Vous êtes sur rail, vous partez vers l'académie. J'avais rigolé, du reste, j'étais jeune, puis je n'avais pas encore d'idée précise, mais en fait, ça me paraissait invraisemblable. Sautons les années, voilà mon ami, Bernard Simon, dont je vous ai parlé, qui était un garçon qui tombait en même temps que moi, l'état normal, et qui lui désirait beaucoup, très vivement, l'académie. Il est connu, je me rappelle plus en quelle année, il y a une dizaine d'années peut-être, comme on était très copains, je lui envoie un télégramme de félicitations, et il me répond par un télégramme où il y avait, j'ai dit maintenant, je te fais la courte échelle. Et ça, je lui ai répondu, pas par un télégramme, une longue lettre, en lui disant, écoute, mon vieux, non, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai expliqué, même en souriant, je ne voulais pas tout dire, mais je vous dirai tout. Je lui ai dit, bon, il faut vivre à Paris pour être sage, pour être un communiste, c'est vrai, il faut pouvoir recevoir des gens, il faut avoir une vie mondaine, quoi que je n'ai pas, j'ai ni les moyens, ni le goût de le faire. Il me disait, parce que c'est arrivé après, il me disait, alors tu maîtrises, mais non, moi, il ne s'agit pas de ça, c'est simplement d'une certaine disposition. Tu le désirais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, moi, je ne le désire pas. Car il disait, mais tu comprends tout de même, c'est une consécration. Je dis, je suis même pas tellement sûr. Tu comprends, il y a des gens de premier rang qui ne sont pas entrés à l'académie pour faire des choses pour entrer à l'académie que je ne veux pas accepter de faire. Mais tu me dis quoi, qu'est-ce qui te gêne? Alors je me suis lancé. Et j'ai dit, il y a des visites à faire. Et la stratégie, je ne ferai jamais. Je lui ai dit les noms propres, je n'ai pas la peine de répéter ici, mais il a dit, je ne me vois pas le dos rond et la bouche en cœur devant un certain monsieur, un autre monsieur, pour lui demander la voix. Je ne veux pas. D'autre part, je lui ai dit, c'est peut-être de la paresse, mais je ne suis pas sûr que ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi ça serait intéressant d'être certain d'être toujours dans un repas à la droite de la maîtresse de maison. Ça ne m'intéresse pas du tout, et je sais que c'est capital pour, peut-être pas pour toi, mais enfin, ah oui, je tiens quand même, me disait-il, mais ça ne m'intéresse pas. Paresse si tu veux, mais aussi autre chose. Quoi autre chose? Là, je vais vous le dire. C'est Bernanos qui m'a éclairé là-dessus. J'avais un réflexe viscéral, mais c'est Bernanos. J'ai lu un jour ceci, sous la plume de Bernanos, dans une lettre à un camarade, à un copain, je ne me rappelle plus lequel, à la suite de cette proposition que Mauriac lui avait faite très gentiment. Hein. Écoutez, Bernanos, si vous me dites simplement à moi, Mauriac, je suis disposé à entrer à l'académie, on vous dispense de tout, j'ai dit, je t'en parlerai. Il avait répondu très convenablement comment on devait le faire à l'académicien. Mais parallèlement, le même jour où il avait répondu à Mauriac avec certaines phrases, il avait dit à un copain ceci, tu comprends? Il y a des choses qu'on ne peut plus dire en costume de carnaval.
Vous croyez sur quoi en ce moment, Henri?
Il y a longtemps que j'ai entrepris un travail sur Peggy, finalement. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans cet énorme bouquin, que j'appellerai du reste Regard sur Peggy, comme j'avais fait Regard sur Bernanos, je ne prétends pas arriver à faire un portrait, c'est très difficile, hein, mais je vais présenter un certain nombre de poses de vue. Qu'est-ce qu'il a fait à l'égard du reste? Pourquoi? Quand il s'est brouillé avec Hitler et le groupe de l'unité socialiste, pourquoi? Il a été d'abord un croyant, puis il a été croyant, mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'il disait exactement? Trajectoire politique, sa vie intérieure, ses amours contrariés. Alors je voudrais essayer de présenter quand même une série de photographies de Peggy qui finiront par se superposer. Mon dernier chapitre s'appelle Et maintenant, ça veut dire comment est-ce qu'on peut envisager le personnage. Je vous dirai comment je le vois, surtout un homme malheureux, hein, vraiment très malheureux, il a raté son coup. C'était un homme, mon Dieu, je ne peux pas lui en vouloir, qui avait une grande ambition, qui se sentait dès une certaine année et même avant plein de talent. Il voulait se reconnaître et qu'il n'y est pas arrivé. Il y a eu un moment, vers 1910, quand il a écrit sa première Jeanne d'Arc, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, où il a obtenu des articles importants, articles d'Arès. D'Arès avait lancé par deux articles suggestifs, un du 21, je crois, et l'autre du 28 février 1910 dans les côtes de Paris. Il a cru que ça y était. En réalité, il fallait bien comprendre, j'ai lu très très des articles, et j'ai vu ce qui paraissait à ce moment-là dans la presse. Peggy s'était beaucoup compromis, mais publiquement, pour l'affaire Dreyfus. En 1910, il se déclarait catholique. Alors, les catholiques, dans l'ensemble, avaient été anti-Dreyfusard. Hein. Alors voilà que Barès lui a fait un article pour dire qu'il est merveilleux, un garçon comme ça, qui autrefois fallait bien son catéchisme, qui s'est un peu orienté mal vers son intellect, mais qui maintenant revient aussi des scènes. Drummond, la libre parole, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est une manchette, enfin, une immense article, la gendarme d'un ancien Dreyfusard. Ça, c'est intéressant, hein. On lui faisait un accueil dans la mesure où on le prenait pour un transfuge. Mais comme cette même année 1910, il a publié un texte important qui s'appelle Notre Jeunesse, dans lequel il dit, oui, j'ai rejoint les nationalistes sur le plan de la défense nationale, mais il y a une chose qui ne tiendront jamais de moi, je ne renierai pas la République, je resterai républicain. Alors dès cette date, l'équipe qui lui avait fait un succès, c'est l'intéressage. On l'avait cru, hein, il se faisait supplétiste, il se déclare indépendant sur la plus. Et c'est vrai, vous savez, c'est vrai qu'il y aura autour de lui une conjuration de silence. Ce qu'on considère aujourd'hui, avec quelquefois un peu d'excès, comme ces chefs-d'œuvre que vous avez vu publier dans la Pléiade, coup par coup, c'est une figure publiée et tombe dans un trou. Personne n'en parle. L'ancienne gauche, enfin la gauche, ne l'aime pas parce que c'est vrai qu'il l'a abandonné. La droite n'est pas assez conscience parce qu'il reste républicain. Si bien quand il va mourir à 41 ans, c'est un type qui n'est pas raté et qui se sait raté. Hein. Il n'a obtenu rien du point de vue de la gloire, zéro. Sa vie intérieure, du côté de sa femme, ça n'a jamais bien marché. Je ne crois pas qu'il l'a épousée avec passion. Vous savez, la fameuse phrase de Saint-Exupéry, elle regardait ensemble dans la même direction. Je crois que c'est vrai, hein. C'est comme ça qu'il s'était marié avec une fille qui n'était pas très jolie, ni laide, mais qui était socialiste comme lui, et qui était très intelligente comme lui à ce moment-là. Puis il y avait le drame qui s'est produit, sa conversion, entre guillemets, sur laquelle il faudrait examiner. Sa famille, sa belle famille, il en avait beaucoup voulu. Parce qu'on l'avait cru comme tel, comme anticuré, tout d'un coup, il venait à militer, ça n'allait plus, hein. Avec les enfants, c'est pas non plus parfait. Puis il avait que trouvé une compensation du côté d'un amour secret, c'est un grand amour, avec une certaine Blanche Raphaël, qui était plus grande que lui, qui était une juive blonde, qui frisait quelqu'un en respire, mais elle a décrit. Il m'a dit, c'était un couple assez bizarre, parce qu'elle était nettement plus grande que lui, puis il était comme ça, il la regardait d'en bas, avec cette chevelure blonde pour une juive, et très exotée, comme je vous le dis. Hasler, te paraît-il, tu rendrais sûr qu'il n'avait pas. Parce que je dis qu'elle n'aimait pas, c'est certain qu'elle n'aimait pas. Alors il a écrit des quatrains là-dessus qui sont très beaux et qu'on a révélés en 1841. Alors vous voyez, carrière, vie familiale, amour, toujours c'est raté. Si bien que ce sur quoi j'insisterai surtout, c'est ce côté de l'homme malheureux, un homme qui a raté sa vie. D'autre part, c'est un homme qui malgré tout a dit des choses qui méritent d'être retenues. Et dans mon dernier chapitre, je dirai à la fois les mérites de l'écrivain et les messages qu'il nous a laissés, dont certains sont importants. D'autre part, bon, je finis ça, je suis en train de les corriger des épreuves, je pense que ça paraîtra en janvier, on m'a dit, au seuil en janvier 81, si je suis encore dessous. Et ce que je voudrais faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est un petit livre que j'appelle dans le secret de ma tête testamentaire, parce que je ne sais pas pour combien de temps je vais mettre, mais c'est le livre auquel j'ai passé le plus de prix en somme. Je vais appeler ça l'affaire Jésus, parce que c'est un mot de Péguy, justement. C'est dans Pindio, qui est le dernier texte de Péguy, qui sera publié après sa mort, vous savez sans doute. Lui, il avait dit, je me suis beaucoup battu sur l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a longtemps divisé les Français, mais viendra bien un temps, ils leur oublieront. Tandis que l'affaire Jésus sera jamais oubliée. J'ai conçu ça en trois parties. La première partie que j'appelle le Nazaréen, vous savez que c'était un homme qui s'appelait en réalité Yeshua, son nom arméen, qui a vécu très certainement sous l'air et qui a vraiment, c'était mis à mort sous postulat. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui historiquement? Vous savez qu'un certain nombre de gens qui nient son historicité, il y a plus moyen de le nier, c'est certain. Un homme comme Lindbergh, qui est un grand incroyable, comme vous savez, un rationaliste, dans son livre Jésus de 1963, je crois, dit, et d'autres l'ont dit depuis, il n'y a pas moyen de nier, il a existé. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Étant donné que ce que nous appelons les évangiles, c'est un des textes qui tardifs, dont on n'a pas les originaux, et qui vraisemblablement ajoutait un certain nombre d'embellissements, mettons de légendes à ce qu'il avait fait. Peut-on entre-deviner le personnage qu'il était? Première partie. Deuxième partie, j'appelle ça les obstacles. Et voici une idée. Quand il était seulement, quand il travaillait en Palestine et qu'il produisait autour de lui une espèce de commotion, les gens n'avaient encore jamais entendu ce qu'il allait dire. C'était un cas, c'était lié, c'était tout neuf. Hein. Rien que nous, après 2000 ans. Pour essayer de couler ce qu'il nous a dit, c'est obligé de traverser les plus grands obstacles. Quoi donc? Ce que l'on a fait de son message. Ce que l'institution en a fait. Ce que les chrétiens en ont fait. Alors, c'est quand on parle de béatitude, les gens pensent qu'il abuse. Hein. Quand on pense à Jésus, on pense à l'inquisition. Puis la théologie. La théologie qui a tellement ajouté de choses. J'ai été tout à fait frappé, mais c'est pas moi qui avais dit que l'on m'avait poussé là-dessus. De m'apercevoir que dans les évangiles, il n'est pas une seule fois, mais vous entendez, il n'est pas une seule fois question du pécheur originel. Or, saint Paul va commencer par dire dans l'Épître aux Romains, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, etc. Puis de construction, c'est un augustin là-dessus. Donc, il y a ce que l'on a fait de son message et ce que la théologie en a fait. Obstacle. Dans une partie, j'avais pensé à ce qui vous savait bêtement le message, mais c'est tellement un texte banal que j'ai fini par trouver autre chose. Ça sera un titre entre guillemets, et moi je vous dis. Car ça arrive souvent que ce personnage, qu'on appelle notre Seigneur, a dit on vous a enseigné que, eh bien, et moi je vous dis. Alors j'ai essayé de trouver le noyau de ce qu'il disait, le noyau central, le feu central, quoi. Et il m'a semblé que cette phrase que vous trouvez chez Saint-Luc et ailleurs encore, le royaume de Dieu est en vous. Qu'est-ce que ça veut bien signifier? Alors j'ai essayé de bien comprendre, à une fin, ça veut dire ceci. À l'intérieur de vous-même, qui que vous soyez, si fruste ou si corrompu même que vous soyez, il y a une réclamation, une revendication. Tout le monde désire quelque chose. Dans un idiome balbutiant, on appelle ça le bien, la solidarité, la justice, l'amour, mais enfin, il y a quelque chose qu'on réclame. Immédiatement, on peut nous dire, oui, on le transfère fictivement dans une réalité objective, mais c'est parce qu'on désire que ce soit vrai. C'est une idée de Marx, par exemple. Mais je réponds, enfin, dans la suite de ce personnage, mais non. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous n'aurions même pas l'idée de le désirer si nous n'avions pas une préconnaissance. Là, laissez-moi faire le cuisse, c'est dans Platon. Platon à propos de l'amour, l'amour désir même. Il s'est fait de deux éléments. Poros et peignure, en grec. Hein. Poros, ça veut dire l'abondance, peignure, ça veut dire la peignure et le manque. Mais il y a poros. Ça veut dire que si on désire une femme, par exemple, il faut bien la connaître. Même si c'est une femme idéale, elle est faite d'éléments empruntés des femmes réelles. Donc, si on désire quelque chose, c'est qu'on en a déjà une espèce de précaution, on la voit. Mais poros, manque. Si on désire, c'est qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Eh bien, le désir essentiel de l'homme, c'est de réaliser cette unité du bien et du beau qu'il a en lui, dont il a une préconnaissance certainement, que j'appellerai un pressentiment, et c'est ça, le royaume de Dieu est en nous. Il y a au centre de chacun de nous-mêmes une connaissance par contact, parce qu'elle dit des connaissances du cœur, j'aime pas tellement, ça fait très du cœur, une connaissance par contact de ce vers quoi nous allons. C'est ça, c'est le secret dit. Maintenant, je me demande, deuxième partie de cette dernière partie, je me demande si c'est encore aujourd'hui une valeur d'impact, comme on dit. Est-ce que les gens d'aujourd'hui peuvent encore comprendre ce qu'il avait à dire? Est-ce que je peux appuyer une sorte d'espérance sur le fait qu'on découvrirait ce qu'il a dit là. J'en suis pas sûr. Enfin, ça veut dire que le bouquin que je prépare, et je voudrais essayer d'y mettre tout ce que je peux, tout ce que je suis.